Bienvenue dans une nouvelle saison de Basculement, le podcast du LAP, le laboratoire d'anthropologie prospective de l'UC Louvain. Les mesures sanitaires liées à la pandémie et les impacts de celle-ci sur nos vies privées et professionnelles ont longtemps rendu difficile, voire impossible, de continuer à organiser et enregistrer ce podcast. Je suis Bénédicte Fontaine et je suis très heureuse de pouvoir à nouveau discuter de leurs recherches avec des anthropologues. Pour ce premier épisode, j'ai reçu Jacinthe Mazzocchetti et nous avons parlé d'écriture, de positionnalité, de place sur le terrain, en s'appuyant sur ses travaux scientifiques, ses recherches de terrain, ses articles épistémologiques et ses écrits poétiques. Cet épisode a été enregistré avec beaucoup d'émotion. L'émotion d'abord de tenter de recommencer ce projet que j'aime, le podcast, mais aussi les émotions que le travail de Jacinthe provoque en moi. Bienvenue dans Basculement, nous écoutons Jacinthe Mazzocchetti. J'ai repris cet article, Basculement, oui. Sensible, implication et écriture, et très vite, dans l'introduction, tu parles de la question du jeu et de l'intrication progressive entre l'expérience de vie et celle du terrain, d'une part, et la production sensible du sens de l'autre, et tu précises, donc sur la question de la réflexivité, qui est si le jeu de ce texte n'est donc pas uniquement méthodologique, mais également biographique. C'est bien ce qui se joue à l'interstice de ces deux jeux qui est au cœur de mon propos. Mmh. Et donc, tu commences ton article en revenant sur l'idée que le retour réflexif ne se suffit pas en lui-même, qu'il ne suffit pas de dire qui on est et d'où on parle, mais aussi de dire ce que ça produit. Mmh. Et je trouvais qu'à l'intersection de ces deux jeux, justement, dans ces interstices que tu présentes à la page 2, il se passait quelque chose d'important qui définissait le reste de ton texte, voire même en partie toute la poésie que j'ai lue de toi lundi, totalement hypnotisée. Et donc je voulais repartir, juste re-rentrer par cette question-là.
Oui, c'est une belle question, parce que c'est vrai qu'en anthropologie maintenant, depuis déjà pas mal d'années, il y a une espèce d'évidence d'une écriture en jeu, mais on ne sait pas toujours très bien ce qu'elle veut dire. Et donc, il y a ce jeu méthodologique qui a été théorisé par Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Et donc, c'est l'idée, bah, puisque c'est moi qui suis sur le terrain, puisque c'est moi qui suis en enquête, qui rencontre les gens, que l'écriture aussi, et donc le tri des données, la mise en intrigue, l'interprétation, ça passe par moi. Et donc, il y a l'évidence que d'un point de vue méthodologique, c'est un jeu qui est là et qui existe. Et que ça permet aussi, plutôt en référence là, à toutes les avancées amenées par Jeanne Favre-Sada, de tenir compte du fait qu'on est aussi qu'il y a aussi des affects qui sont engagés sur le terrain, etc. Mais il y a deux dimensions qui me semblent souvent un peu passer à la trappe, ou on passe un peu dessus un peu rapidement, en tout cas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et ces deux dimensions, c'est la dimension qui est elle aussi... méthodologique ou épistémologique, qui est celle de la positionnalité, hein, qui nous vient plutôt des épistémologies féministes notamment, mais pas seulement, c'est-à-dire de réfléchir vraiment ce que ça implique, la manière dont on est situé dans les rapports sociaux qui sont aussi des rapports de pouvoir, bien sûr, ce que ça implique, la manière dont on a été socialisé, ce que notre corps raconte à notre insu, mais ce que ça implique vraiment dans la dynamique de recherche et d'écriture, et pas, c'est pour ça que je dis dans le début du texte, parfois on se contente un peu maintenant de dire, ça, et c'est comme si la question était résolue, je suis une femme blanche, j'ai X âge, j'ai X enfants, je suis cisgenre, ok c'est bien, mais ça fait un peu, j'étale une espèce de mosaïque des facettes de mon identité, et puisque j'ai fait aveu de tout ça, ben voilà, c'est bon, maintenant vous savez qui je suis, je peux parler. Ben, au-delà de savoir... Qui en est en termes de positionnalité, c'est vraiment l'incidence que ça a dans la pratique de la recherche, c'est ça qui me semble évidemment important à creuser. Et l'autre dimension, c'est la dimension plus biographique en tant que telle, c'est-à-dire qu'il me semble que la manière dont nous pratiquons de la recherche, qui repose sur la relation, c'est la base de notre pratique, la rencontre, même quand on est dans des terrains... qui peuvent être des terrains comme les tiens où l'évidence de l'empathie n'est pas forcément là d'entrée de jeu. Moi, je travaille aussi, par exemple, sur les questions du complotisme, etc. Avec certaines personnes, je ne suis pas dans l'évidence de l'empathie, encore moins de la sympathie. Mais il n'empêche que si on n'arrive pas à basculer du côté de la relation et de la rencontre, on n'arrive pas à travailler et à aller en profondeur et à apporter quelque chose de spécifique par rapport à ce que d'autres font. Et donc, nous, on a besoin de se rapprocher de l'intime de l'autre qui que soit cet autre. Et il me semble que quand on pratique pendant des années ce travail finalement de se mettre en relation profonde avec des autres, avec aussi d'autres visions du monde, etc., ben, on s'en trouve aussi transformé. Et que ça me semble important de réfléchir aussi cette transformation-là et l'incidence que ça a de nouveau dans la pratique de notre métier, mais aussi dans nos vies, quoi, dans notre quotidien, d'un regard sur le monde qui devient aussi singulier parce qu'on a été travaillé par la démarche ethnographique qui est quand même... Il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodin, quoi, là, derrière.
Ce que j'aime beaucoup aussi dans ton article, c'est que tu articules clairement ces implications à tous les niveaux de notre travail. Donc, tous ces niveaux qui ont lieu à la fois sur le terrain et ensuite dans l'écriture du terrain et dans la manière dont on lit nos données. Et ces deux enjeux que tu viens de réénoncer, donc qui je suis sur le terrain, ça a un impact sur comment est-ce qu'on récolte des données, à quelles données on a accès, quelle place nous donnent nos interlocuteurs en fonction de ce qu'ils infèrent de notre identité ou de ce qu'ils savent de cette identité, de la même manière qu'on infère leur identité à partir de toute une série de signaux visibles. Mais ensuite, tout ça revient se jouer d'une autre manière et d'une même manière en même temps dans l'écriture. Mmh. Je trouve que tu rends ça avec tellement de toutes ces tensions, mais aussi toutes ces richesses, avec beaucoup, beaucoup de finesse. Et du coup, je voulais revenir sur la question du terrain, parce que tu as fait beaucoup de terrain en Afrique, notamment. Mmh. Donc, sur cet enjeu de place et de...
Oui. Qui est en effet à chaque fois à renégocier en fonction des différents terrains. Et donc ça, moi j'ai cette particularité d'avoir très vite eu, et c'est une chance je crois, même si ce n'était pas forcément évident au départ, plusieurs terrains en parallèle. À la fois des terrains très éloignés géographiquement parlant, notamment en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, où j'ai fait mon travail de thèse, et puis des terrains très proches, qui ne sont pas forcément proches dans le sens... Il y a la question géographique, mais pour moi, la question géographique par rapport aux enjeux de proximité, de distance, elle est pas, c'est pas ça qui est pertinent. Pour moi, la proximité et la distance, ça se joue en termes affectifs, ça se joue en termes culturels, en termes sociaux. C'est là qu'il y a surtout des incidences pour moi. Mais très proche ici aussi... en Belgique, parce que autour de thématiques ou avec des personnes dont les vies, en fait, m'étaient proches. Et donc d'avoir été embarquée comme ça en parallèle dans des terrains multiples, ça m'a très vite obligée, peut-être, je ne sais pas, à être en réflexion sur certaines questions qui ne me seraient peut-être pas venues autrement. Et donc d'essayer de saisir est-ce qu'on fait du terrain de la même manière ou pas, est-ce que les attentes sont les mêmes ou pas, et par exemple quelque chose qui m'a assez rapidement marqué et mis au travail, c'est en termes d'enjeux sociétal. Quand j'ai commencé à vraiment faire de la recherche, il y avait un peu comme ça cette idée que quand on fait de la recherche très loin, la question des enjeux sociétaux, mais aussi dès lors de la responsabilité du chercheur ou de la chercheuse, est beaucoup moins marquée quand on est à 6000 km que quand on est au pas de sa porte, puisqu'au pas de sa porte, on ne peut pas échapper aux questions qui sont d'emblée là, et puis on est d'emblée interpellé par les personnes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a assez rapidement mis au travail et qui était, je pense, salutaire parce que ça m'a... je ne sais pas si le mot « obligé » est juste, mais en même temps, je ne sais pas, tu vois, si ça me serait venu de soi. Donc, il y a un peu quand même une histoire qui fait que, à réfléchir aussi dans mes terrains au Burkina, à la manière de faire terrain en lien avec des questions de respect, des questions de légitimité, des questions de responsabilité, des questions d'implication et d'engagement, qui n'étaient pas forcément ce qu'on attendait de moi. Mais qui très vite ont émergé et nous ont amené aussi avec un collègue qui malheureusement maintenant est décédé, Mathieu Hilgers, où on travaillait ensemble au Burkina à une certaine époque sur le politique, à réfléchir aussi la manière dont on pouvait s'impliquer dans la société civile burkinabé par rapport à toute une série de questions, tout en étant à notre juste place. Des questions pas faciles. Hein. Voilà, je ne sais pas où tu voulais m'emmener.
Non, mais
je voulais... C'est ce que ça m'a donné à penser, mais je ne sais pas où tu voulais m'emmener.
C'est parfait, je voulais t'emmener sur la question du terrain. Et du coup, je vais enchaîner tout de suite sur la question de cette écriture en reprenant une interpellation que tu prends, que tu écris telle quelle dans ton texte. Qui es-tu, toi, qui te permet d'écrire sur moi ?
Oui, oui, ça, c'est une question fondamentale et qui émerge un peu aujourd'hui dans toute une série de sphères, qui est là depuis toujours en réalité, mais qui faisait moins de bruit auparavant. Elle faisait moins de bruit pour plein de raisons. Comme je te disais, moi quand j'ai démarré il y a une vingtaine d'années, la plupart des gens autour de moi étaient dans des terrains très lointains et se posaient absolument pas ce genre de questions. Et sur le terrain, on leur posait pas forcément ce genre de questions-là non plus. Aussi parce que ils étaient pas ils travaillaient pas forcément en milieu urbain, etc. Moi, au Burkina, j'ai commencé à travailler d'emblée avec des jeunesses urbaines. Une partie d'entre elles scolarisées, voire hautement scolarisées. Donc déjà, on était dans une relation qui n'est pas du tout une relation où c'est moi qui suis au-dessus et ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, ce n'est pas ça. Ils ne m'avaient pas attendu, par ailleurs, pour prendre la parole. Ou avec des jeunesses urbaines aussi, mais plutôt artistes, etc., dans la contestation, avec beaucoup de colère vis-à-vis de l'Occident, déjà une réflexion sur le passé colonial, mais aussi surtout sur le néocolonialisme, le capitalisme, etc. Et donc, bien sûr, il y avait des jeux parfois de ce que moi, jeune femme blanche, pouvais représenter comme potentielle ouverture. À la fois, peut-être j'avais des ressources, ou bien je pouvais aider sur un dossier, visa, ce genre de choses. Bon, voilà. Mais il n'y avait pas du tout. Enfin, je ne me regardais pas du tout comme la chercheur, je ne sais pas quoi. Enfin, non, j'étais plutôt d'emblée sommée, de m'expliquer ce que j'étais en train de faire là, ce que je cherchais, d'où je parlais, en quoi ma présence. Avait du sens, pouvait-elle aider, etc. Donc, moi, j'ai eu ça très vite aussi parce que j'étais sur des terrains spécifiques, je crois. Et puis, comme je le disais, parce que comme je faisais en parallèle du terrain ici en Belgique, je me dis, mais c'est quand même fou que les questions qu'on se positionne, on se les pose autrement. Enfin, il y a un truc très, très vite. Et donc, ces questions qui, aujourd'hui, sont très fortes sur la place publique, vraiment. Parce que le monde a changé, parce qu'aussi réseaux sociaux, et donc les gens s'expriment beaucoup plus facilement, parce que, évidemment, les revendications à la fois postcoloniales qui sont devenues décoloniales, subalternes, elles existent depuis très longtemps, et elles étaient déjà très fortes dans les années 90-2000, mais elles ne faisaient pas autant de bruit qu'aujourd'hui, en tout cas, elle ne secouait pas de la même manière le monde de la recherche. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une espèce d'attention à cette question de la légitimité qui peut faire blocage parfois parce que, à partir du moment où ce sont des questions que tu ne t'es pas vraiment posées, forcément, tu demandes comment il est encore possible de travailler. De mon côté, je n'ai pas les réponses hein, parce que c'est une chose vraiment complexe. Je suis intimement persuadée qu'il est impossible de travailler en passant à côté de ces questions-là. Donc il faut absolument être au clair avec qui on est, de quelle place on parle, pour faire quoi, comment, dans quel type de relation, dans quel type de démarche collaborative, participative, est-ce qu'on est sur le devant de la scène, est-ce qu'on est en arrière-scène, etc. Et cette question que tu reprends, elle m'est adressée au début hein, de mon histoire d'anthropologue. Je suis au Burkina depuis pas tellement longtemps, avec aussi la naïveté des premières années de recherche. Et c'est un jeune musicien, justement, qui écrivait des textes. C'était du reggae, je pense. C'était pas du rap, je pense que c'était du reggae bien anti-occident, enfin vraiment un truc bien, quoi. Et ce que je représentais d'emblée, pour lui, était questionnant. Et donc, il arrive d'emblée avec cette question-là, mais qui me met au travail, mais qui devrait, je pense, tous et toutes nous mettre au travail. Est-ce qu'on écrit sur? Est-ce qu'on écrit avec? Est-ce qu'on écrit à côté? Et puis, écrire avec ne résout pas forcément tout. Qui porte la responsabilité de ce qui a été écrit? Qui porte la parole publique? Comment est-ce qu'on se met d'accord sur la parole que l'on va porter? Enfin, c'est pas des questions faciles, mais qui sont pour moi indispensables. Et le piège à éviter, qui est un piège qui est pour le moment, qui est même dans lequel toute une série de personnes, me semble-t-il, sont en train de tomber, c'est ces questions de légitimité et cette prise de parole aujourd'hui beaucoup plus forte des groupes subalternisés, minorisés, etc., nous empêche de travailler, nous empêche de dire, nous empêche. Bah non, ils nous confrontent et ils font cheminer, je l'espère, nos pratiques vers de la recherche de plus en plus éthique, de plus en plus ancrée, de plus en plus collaborative, oui.
Je suis très d'accord. Moi, je suis sur un terrain qui... dans lequel je suis tout le temps obligée de me dire. La présentation fait tellement partie du terrain que je dois tout le temps me présenter. Et je suis en train de relire mes carnets en ce moment. C'est bien de le faire une fois de temps en temps. C'est douloureux, mais bien. Et je me rends compte qu'au tout début du terrain, il y a un moment où me dire est un moment douloureux pour moi parce que je ne sais plus moi-même ce que je suis en train de faire. Et donc, je suis obligée d'énoncer quelque chose avec la certitude de celle qui est là et qui sait ce qu'elle fait. Alors que je n'en sais en fait plus rien, parce que c'est ça aussi que fait le terrain. Je trouve qu'il y a un moment, enfin, il y a un moment dans le terrain où on commence à comprendre qu'on n'a rien compris, et du coup on ne sait plus vraiment ce qu'on y fait. On y est venu avec la certitude qu'on allait étudier quelque chose, et cette chose ne se présente pas à nous, et d'autres choses se présentent. Et alors, il y a cette perte comme ça qui est difficile du coup à se dire. Je comprends la résistance à se dire, en fait, parce qu'elle oblige à se dire ce qu'on fait aussi. Et dans quel but, et pourquoi. Et parfois, nos buts sont égoïstes. Écrire une thèse, c'est profondément égoïste.
Oui, il y a de ça, certainement. Et c'est malaisant. Et pour moi, c'est pas grave que ce soit malaisant. Même si je dis pas que c'est comique tous les jours. Il y a d'ailleurs des fois où... Enfin, j'ai eu des moments où... Voilà, je me mettais un peu en retrait parce que se faire agresser chaque fois que tu vas sur le terrain, parfois ça peut être un peu lourd. Agresser verbalement, on s'entend. Hein. Mais en même temps, sans commune mesure avec toute une série de violences que vivent les gens avec lesquels je travaille. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur juste place. Mais quand je travaille ces questions-là avec les étudiants et étudiantes, ce que je mets aussi souvent en avant, c'est que ça nous oblige, et c'est bien, à rester dans cette posture de l'humilité. En fait, à ne jamais oublier en tout cas, nous, comme anthropologues, nous avons fondamentalement besoin des autres pour produire de la connaissance. Et donc, on a besoin que les autres acceptent, ne serait-ce que notre présence, qu'ils nous parlent ou pas, des fois. Ils ne nous parlent pas forcément, pas toujours, ça dépend un peu, mais on est vraiment... Alors, ça résout pas toutes les questions de rapport pouvoir-savoir, d'autorité, etc. Bien sûr, ça résout pas tout ça. Et puis, ça dépend d'un terrain à l'autre. Sur certains terrains, comme le tien, par exemple, ça n'a rien d'extraordinaire à ce qu'une chercheure ou une doctorante ou une universitaire soit là, parce que t'es dans un monde où, évidemment, dans d'autres mondes, ça se pose autrement. Ça reste que ça peut être très intimidant d'avoir quelqu'un qui est là, qui écrit, qui est à l'université, c'est quand même, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui dans pas mal de milieux, notamment des milieux très loin, parfois de l'école, ou très précarisés, ou dans d'autres urgences, d'autres réalités, et évidemment ça joue. Mais là aussi, je pense qu'on devrait se souvenir de cette posture d'humilité et prendre le temps aussi de, même quand c'est facile. C'est-à-dire que dans certains milieux, c'est facile. Tu poses des questions aux gens, ils vont simplement te répondre. Mais là aussi, pour moi, on devrait prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on fait là et pourquoi et comment. Oui.
Et ce qu'ils attendent de nous aussi.
Est-ce que
tu parles de ce double sens de l'affectation de Jeanne Favre-Sada, être affectée dans ses affects et être affectée à une place. Pendant mon terrain de master avec les prostituées, à un moment, j'ai mis un terme à ce terrain parce que j'arrivais auprès d'elle avec l'aura de l'université et la certitude pour elle que d'une manière ou d'une autre, j'allais pouvoir devenir un entonnoir et un espace à partir duquel leurs paroles pourraient dépasser le quartier. Et en vrai, la portée de nos travaux, surtout en master, surtout en mémoire, ne me permet pas de tenir cet engagement vis-à-vis d'elle. Cet engagement que par ailleurs je n'avais pas pris, mais qu'elle me prête, qu'elle mette sur moi en se disant elle vient de dehors, elle a le pouvoir du savoir et des bons mots et de l'écriture, et avec ça elle pourra faire quelque chose pour nous, alors que je ne pouvais rien faire pour elle.
Dans certains milieux, effectivement, ça joue encore. C'est pas facile parce qu'évidemment, même si on clarifie, les projections, les attentes, les espoirs, ça reste que c'est quelque chose. Après, c'est en effet particulier en lien aussi avec là où on se situe dans l'avancée de son propre parcours. C'est vrai, quand on est encore étudiant. C'est important d'autant plus modeste parce qu'on ne sait pas très bien si on va pouvoir faire quelque chose de ce qu'on est en train de faire. Puis c'est pas forcément effectivement l'enjeu. Puis je dis souvent ça aussi à mes étudiants et étudiantes, avant de rendre des textes publics, il faut d'abord quand même être un peu solide, quoi. Faut pas faire circuler n'importe quoi. Et donc un peu de nouveau, un peu aussi une étape après l'autre. Essayons déjà d'apprendre à faire de la recherche correctement. Et puis une fois qu'on est solide d'un point de vue méthodologique, du point de vue de l'écriture, etc., faisons circuler éventuellement toute une série d'écrits, de traces, etc., parce que mettre des traces en circulation, c'est pas anodin, et donc il faut pas faire circuler n'importe quoi, un travail qui est pas tout à fait abouti ou qui est un travail d'apprenti, et c'est normal, il faut bien en passer par là. Après, c'est vrai qu'il se passe aussi parfois des choses dans le moment même, dans la rencontre. Il y a des choses qui cheminent ou qui s'énoncent autrement parce qu'on a un interlocuteur, une interlocutrice qui donne de l'importance à ce qu'on est en train de dire ou à ce qu'on est en train de vivre. Et donc, des fois, ça, sur le terrain, c'est déjà beaucoup. Quand on avance évidemment un peu en carrière, quand on a cette chance-là, carrière dans un sens positif du terme, c'est-à-dire simplement de pouvoir continuer à pratiquer le métier, pas dans le sens carriériste du terme, on peut s'engager à d'autres choses. Et c'est aussi intéressant, même si de nouveau en termes de responsabilité, on peut à un moment donné dire « je vais écrire quelque chose qui va être rendu public ». Alors à la fois ça peut faire très peur et à la fois ça peut aussi être très motivant tout en relativisant la portée évidemment. C'est pas parce qu'on publie un livre qu'on va changer le monde. Et donc à la fois pour nous-mêmes et des fois pour les autres qui attendent beaucoup de notre publication ou de nos prises de parole. Parfois c'est encore le cas, je disais dans certains milieux, ça dépend vraiment des milieux. Mais les milieux qui ont encore du mal à se faire entendre, à être respectés ou à avoir le temps de d'écrire ou qui ne maîtrisent pas forcément ou notre langue ou notre langage, le langage plus académique ou journalistique ou littéraire, là, il y a encore une incidence qui est possible. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pour moi, c'est important en tout cas de dire aussi je suis là, bien sûr, pour faire avancer la connaissance, et c'est important aussi, mais je suis là aussi pour faire quelque chose de ce que vous êtes en train de me dire. Et ça, c'est vrai qu'au moment de l'apprentissage, c'est pas forcément évident, mais il y a d'autres formes de restitution qui sont possibles, qui sont plus modestes. Qu'est-ce que je vais rendre, ou si vraiment il y a une attente très forte, comment je peux m'engager à écrire ne serait-ce qu'un article dans une revue de travail social par exemple, ça dépend, ça se négocie, puis ça s'accompagne aussi. Parce que chaque fois, c'est des formes d'écriture spécifiques. Mais c'est vrai que la question des attentes, c'est une question importante. Moi, je pense qu'on doit l'entendre, et en même temps, on ne doit pas tromper les gens. C'est ça qui n'est pas toujours facile, et pas les tromper au niveau de l'affect non plus. Même si notre boulot, c'est de se rapprocher les gens. C'est pas possible d'essayer de comprendre ce que les gens ont dans la tête si on se rapproche pas d'eux, puisque nous, on est un peu ambitieux quand même, hein, puisque on veut s'intéresser aux discours, aux pratiques et aux représentations, donc à ce que les gens ont dans la tête. Donc c'est quand même assez, quand on y pense, on dit oh, quand même. Pour ça, bah, y a rien à faire. Il faut vraiment. Mais en même temps, on va pas au final devenir ami ou amie avec tout le monde. Et j'insiste, c'est surtout dans les milieux justement précarisés, mais ça peut être dans un sens très pluriel, précarisé sur le plan affectif, précarisé sur le plan de la santé mentale, précarisé sur le plan économique, enfin vraiment ça peut être dans un sens que là parfois il peut y avoir des ambiguïtés avec lesquelles on doit travailler. Oui, et ne pas nous-mêmes nous engager à des choses qu'on ne pourra pas tenir. Mais je le dis comme ça, comme si c'était un truc de les doigts dans le nez. C'est pas facile, hein, quand on passe plein de temps avec des gens qui peuvent parfois s'attacher à nous plus parfois qu'on ne s'attache à eux. Et inversement, par ailleurs. Mais, et de nouveau, là, par le passé... dans l'histoire de la discipline, c'est des choses qui parfois étaient réfléchies autrement parce qu'il y avait cette fameuse distance. Et de nouveau, cette distance, c'est pas seulement géographique, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire du terrain en Colombie tout en étant par Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ce que tu veux, tout à fait dans une proximité affective quotidienne avec les gens, ce qui n'existait pas forcément par le passé. On pouvait dire, voilà, je travaille un certain nombre de temps, et puis bon, bah, je m'en vais, et puis voilà. Et... Ah, aujourd'hui, je pense que partout, on est travaillé autrement par ces questions-là. Et qu'il est vraiment très important d'en prendre la mesure, oui.
Il y a, je ne sais pas si tu connais la bande dessinée Anent de Alessandro Pignocci.
Non.
Donc, c'est un philosophe français qui retourne et qui dessine merveilleusement bien et qui tombe complètement amoureux des Lances du Crépuscule, de Descola, et qui décide de retourner sur le terrain de Descola 30 ou 40 ans plus tard. Je ne sais plus très bien comment Descola fait du terrain. Et quand il arrive avec l'avion, il y a cette scène déchirante où le frère de Descola attend l'avion. Donc celui qui, sur le terrain, était devenu son frère. Oui. Et donc il attend l'avion parce qu'il n'a pas compris que Descola ne venait pas et que c'était un élève à lui qui allait arriver. Et donc, il voit l'avion atterrir et il voit Alessandro Pignocci en descendre. Et il fait demi-tour, tout courbé de vieillesse et de tout ça. Et en note, comme ça, Alessandro Pignocci glisse « Mais ça fait 10 ans que Descola n'est pas venu. » Et que ce monsieur l'attend, en fait. Il l'attend parce que c'est son frère.
Oui, oui.
Et elle est terrible, cette scène. Elle est terrible des engagements qu'on prend et qu'on tient ou qu'on ne tient plus.
Qu'on ne tient plus et de l'importance que ça a pour chacun.
Oui.
Qui peut être tout à fait... oui, ça peut être tout à fait différent. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire en termes de parenté dans certaines sociétés, la parenté sociale est tout aussi forte, voire plus forte que la parenté biologique. Et donc, si tu es devenu frère, ça ne veut pas forcément dire la même chose là-bas, ici, ailleurs. C'est vrai. Et ça va parfois dans les deux sens aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui comptent pour nous, dont on perd la trace, et dont on reste comme ça... Voilà, on ne sait pas, c'est des gens qui ont parfois été très importants, vraiment, hein, pour nous, qui nous ont, pour plein de raisons, soit parfois permis de faire notre travail, tout simplement, ou pas du tout. Simplement, comme on passe plein de temps, ben, on vit aussi, donc on a des vraies relations, dans le sens vrai, dans le sens vraiment d'amitié, mais parfois d'amour, etc., qui se nouent, ou même de filiation qui se nouent, et puis... Il se fait que la vie, fait qu'on existe, on n'existe plus les uns pour les autres. C'est aussi quelque chose de... et la mort aussi s'insinue dans cette histoire. Par rapport au Burkina dont tu parlais tout à l'heure, moi maintenant quand je regarde derrière mon épaule le Burkina, en fait la majorité des gens qui ont compté pour moi là-bas, mais qui ont vraiment compté de manière très forte, en fait ils sont morts. D'ailleurs ça m'émeut un peu, je m'émeut vite moi, c'est pas grave. C'est comme ça, mais ils sont morts pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on ne vit pas dans les mêmes mondes, qu'on est dans des inégalités sociales, économiques, politiques qui sont prépondérantes. Puis il y a aussi quelque chose qui fait, je ne sais pas, les deux collègues, pour le coup, un Belge et une Française qui ont travaillé avec moi sur le Burkina, bah, ils sont morts aussi. Et là, ce n'est pas, c'est autre chose qui joue, hein, c'est autre chose qui joue, mais il y a Lila Chouli et Mathieu Elgers, qui est vraiment, c'est les deux personnes avec qui vraiment on était dans la même tranche d'âge, dans les mêmes tripes, on réfléchissait ensemble, les mêmes questions, etc. Ils sont morts tous les deux. Et je cite les deux parce que les deux sont importants, parce que c'est des deuils très étranges, en fait, ou des deuils qui n'en sont pas, et des choses, on nous parle évidemment... De relations, d'affects, etc., quand on parle de notre métier ou quand on essaye d'apprendre à pratiquer le métier. Mais de ça, on en parle peu, alors que c'est quand même très singulier parce que ce sont des deuils qui n'ont pas de place. Ils sont difficiles à énoncer, ils sont difficiles à comprendre pour les gens qui t'entourent. Tu es dedans sans être dedans. Voilà, quand il y a des gens comme ça qui, en particulier du terrain, bon ben voilà, ils disparaissent, ils sont morts, tu l'apprends parce que si tu as la chance que quelqu'un d'autre t'informe par ailleurs, puis tu es là, ben voilà, moi j'ai perdu il y a quelques années vraiment un très très bon ami qui est décédé du sida au Burkina, on meurt encore du sida dans certaines régions du monde. Et voilà, je reçois un WhatsApp, quoi, pour me dire, tu as vu que X est mort, ok. Et puis c'est tout, en fait, c'est tout. Mais, enfin, et à qui tu vas dire ça, pour en faire quoi? Donc moi, je lui ai dédié un livre. Voilà, c'est ma manière à moi de... Non, j'ai écrit un roman sur les questions d'exil, qui s'appelle « Là où le soleil ne brûle pas ». Et cet ouvrage lui est dédié à lui et plusieurs autres... personnes qui sont décédées, qui ont compté sur mes terrains. Mais voilà, derrière cette question de la relation dont tu parlais et de comment on est engagé, parce que les attentes, c'est ça aussi, les projections qu'on a les uns sur les autres. Ouais, y a aussi toutes ces questions-là, je pense, qui sont pas simples. Ouais.
Tu parles beaucoup des dominations qui traversent le terrain, des oui. Différents systèmes de domination qui traversent nos terrains, qui traversent tous nos terrains. Comment ? Je sais par où je l'apprends. Très bien. Alors, tu parles beaucoup des systèmes de domination qui traversent nos terrains et tu parlais notamment de la possibilité d'écrire en co-construisant. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un engagement qui marche très très bien quand on parle des personnes dominées, qui sont mm-hmm. des personnes subalternes, mais qui marche assez mal quand on parle des personnes dominantes. Mm-hmm. Et je vais convoquer Karen O, qui est un de mes maîtres à penser, qui dit que donner la parole aux gens de nos terrains, c'était un constat qui marche très très bien sur les terrains de la postcolonie ou les terrains de la subalternité, mais donner la parole, relayer uniquement la parole ou donner totalement la parole aux dominants sur les terrains de nos dominants, c'est juste renforcer une parole qui a déjà lieu sur l'espace public. C'est une parole qu'ils ont déjà, c'est une hégémonie qu'ils occupent déjà, c'est une place qu'ils ont. Et ça change quand même les responsabilités de l'ethnographe. Mmh. Or, par exemple, quand tu travailles au sein de l'IPPJ, mmh. tu te retrouves à relayer ces deux choses, à la fois la parole mmh. des dominants, au moins au sein de l'IPPJ, même oui. s'ils ne sont pas structurellement dominants dans l'intégralité de la société, même si ça se discute, mmh. Et des enfants qui y sont et qui, eux, sont dans cette situation singulière de domination violente, puisque c'est quand même une forme de prison.
Oui. Bon, là, évidemment, c'est effectivement quelque chose d'assez singulier, complexe. Je n'ai pas donné la même place aux deux paroles, déjà, c'est quand même important. Donc, IPPJ, Institut de protection de la jeunesse, donc, qui est les lieux de placement, mais en réalité d'enfermement des mineurs dits délinquants. Et donc, moi, j'ai travaillé dans la seule institution pour filles, pour jeunes filles. Dans l'ouvrage, les jeunes filles ont vraiment, tout cas j'ai essayé, une parole en jeu. C'est-à-dire que je relate des histoires qu'elles m'ont partagées, des histoires de vie. Je relate aussi des points de vue, parce qu'on a travaillé notamment en réflexion collective, groupe, etc. Et donc, il y a tous des extraits d'échanges, quoi, simplement, où je relate une telle dit ça, enfin, vraiment un extrait de discussion collective. C'est une grosse partie de l'ouvrage. D'une part à simplement, donc le milieu de l'ouvrage, c'est je relate simplement quatre histoires, enfin simplement, simplement dans le sens où, bien sûr c'est moi qui écris, et bien sûr c'est à moi qu'elles ont raconté leurs histoires, mais je ne suis pas dans une analyse, ou dans, je raconte simplement leur histoire, je donne de la place à ces histoires qui, à l'époque, et encore aujourd'hui, avaient très peu de place publique. Par ailleurs, avec des jeunes filles qui ont des parcours compliqués et qui donc, pour la plupart d'entre elles, vont pas forcément se mettre en écriture, ou même si aujourd'hui il y a d'autres médias qui relaient autrement leurs paroles, notamment podcasts, etc., qui permettent toute une série de choses vraiment très intéressantes, qui étaient moins présents. Ça existait déjà, bien sûr. Il y a notamment Samarcande qui faisait des choses, Radio Samarcande, qui faisait des choses déjà très, très fortes, très belles à ce moment-là. Mais c'est quand même beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. La parole des éducateurs, éducatrices, qui sont un peu à l'interface, comme tu le dis, parce que à la fois au sein de l'institution, ils ont un relatif pouvoir, mais je dis relatif, parce qu'ils ont au-dessus d'eux une équipe de direction, des juges, des cadres ministériels, et donc sur toute une série de règles, de décisions, ils ont très peu finalement de marge de manœuvre. Par exemple, est-ce que cette jeune fille est prête ou pas à sortir ? L'équipe va faire un rapport, mais le juge va pas, ou la juge va pas forcément tenir compte du rapport qui est fait par l'équipe. Moi, je me souviens toute une série de cas où il y avait des, d'un côté comme de l'autre, quoi, les équipes disaient non, elle, maintenant c'est trop, il faut qu'elle parte, parce que sinon, enfin, on a fait ce qu'on pouvait avec elle et elle va péter les plombs et c'est plus la, enfin, même si on, donc on peut imaginer, et c'est mon point de vue d'ailleurs, que l'enfermement dans l'absolu est néfaste. Depuis l'institution, l'idée était, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire, et donc l'enfermer plus longtemps, c'est vraiment tout à fait contre-productif. Et puis la jeune fille passe devant le ou la juge, et le ou la juge estime que blablabla, et donc 6 mois de prolongation, 2 semaines plus tard, la jeune fille fugue, c'est la cata, etc. Enfin, donc ils sont aussi dans une position vraiment d'entre-deux, qui était aussi intéressante à saisir, à la fois dans le quotidien, ils ont un certain pouvoir, hein, donc à la fois de réguler le vivre ensemble, mais aussi de punir si on ne respecte pas les règles de la collectivité dans le lieu d'enfermement. Et donc leur parole, dans l'ouvrage, elle vient aussi à deux niveaux. Une parole aussi quand même qui est une parole réflexive sur qu'est-ce qu'on fait là, comment on le fait, comment on peut travailler ou comment on peut pas travailler, surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Et puis une parole de la relation, c'est-à-dire quels sont les échanges entre les jeunes filles et les équipes, et qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre ou cette non-rencontre. Donc c'est pas tout à fait le même statut, ni la même place, ni la même parole qui est relayée, mais c'est vrai qu'il y a les deux. Donc il y a notamment la troisième partie de l'ouvrage où on est plus dans une réflexion sur les pratiques, les règles, etc. Et là, il y a vraiment les choses sont vraiment à l'interface, avec aussi un procédé d'anonymisation assez spécifique. Puisque je ne pouvais pas anonymiser l'institution, puisqu'il n'y en a qu'une, au niveau des jeunes filles, l'anonymat n'était pas trop difficile à conserver, parce que déjà elles sont très nombreuses à passer par là, en modifiant certains petits éléments. Je m'étais engagée à ne rien publier à propos des jeunes filles qui m'avaient parlé depuis l'intérieur de l'institution, puisqu'il y en a aussi qui m'ont parlé de l'extérieur de l'institution. Donc enfin, là, franchement, en ayant réfléchi quand même, mais c'était pas trop, trop compliqué. Pour les équipes, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai pris le parti d'un travail d'anonymisation où chaque fois que un membre de l'équipe éducative prend la parole, il a un autre prénom. Donc, même si je cite 10 fois Martine, elle s'appelle une fois Martine, une fois Nathalie, une fois, etc. Dans l'idée que je ne travaillais pas dans cet ouvrage-là, en tout cas, et dans cette partie-là, leur trajectoire d'éducateur, éducatrice, justement, tu vois, mais plutôt un fonctionnement des processus. Et que là, c'était intéressant quand même d'avoir leur regard, mais d'une part, il fallait quand même protéger ces équipes. Qui m'ont accepté, hein, parce que c'est ça aussi, qui avait aussi pour certaines d'ailleurs des attentes, parce que quand on accepte parfois aussi un anthropologue chez soi, parfois on a en arrière-fond de la tête aussi des attentes qui peuvent être enfin quelqu'un qui va pouvoir dire ce que nous on ne peut pas dire, hein, ça peut aussi être ça parfois, et c'était en partie ça. Et en même temps, c'était important que leur parole. Que leur parole puisse exister aussi, parce que l'incidence sur le quotidien et le vécu des jeunes filles était vraiment important, quoi. Voilà, oui.
C'est des questions compliquées. L'anthropologue n'est pas toujours l'ami qui vous veut du bien.
En effet. En effet. Là, pour le coup, je ne l'ai été pour une partie des personnes et pour une autre partie... absolument pas, dans le sens où j'avais au départ, c'était une recherche dont l'initiative venait justement de certaines membres de l'équipe éducative qui à un moment donné ont souhaité la présence d'un ou d'une chercheur pour réfléchir sur toute une série d'enjeux et le mandat pour lequel j'ai été au départ engagée, c'était de travailler sur les conduites à risque des jeunes filles. Ce que j'ai fait aussi, hein, bien sûr. Mais au final, j'ai écrit un livre sur le placement comme conduite à risque. Donc, c'est un peu un retournement de la demande, tout en restant dans... Et ce n'était pas prévu au départ. Mais en effet, ça a pu, pour une partie des personnes... être vécu comme voilà un peu une forme de trahison ou des choses qui n'ont pas forcément été faciles, quoi.
C'est difficile parce qu'on est soi-même tout le temps pris dans des enjeux, enfin on est pris dans le système dans lequel on existe et sur lequel on écrit et sur lequel on pense, et on compose avec celui-là à l'intérieur de nous pour survivre aussi. C'est
en effet,
c'est très difficile de se regarder comme ça. Il y a une certaine violence, je trouve, à l'ethnographie, la réflexivité n'est pas toujours souhaitable. Enfin, parfois, elle fait exploser toute une série de récits qu'on s'est construits pour continuer à avancer, quoi.
Oui, alors, en effet, ça peut être tout à fait déstabilisant parce qu'on est, dans une auto-réflexion permanente sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi, comment, avec quelle incidence... là où on a foiré, là où on a peut-être fait un peu quelque chose de bien, là où on a cru qu'on faisait quelque chose de bien, mais on se prend en revers quand on ne s'attendait pas à voir venir, là où on est parfois instrumentalisé. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut être épuisant, en tout cas, dans cette remise en question permanente, à la fois qui est très stimulant, parce qu'on ne s'ennuie jamais, on est tout le temps en train d'apprendre sur notre pratique, mais aussi sur nous-mêmes. Mais c'est vrai que ça peut aussi être déstabilisant parce que ça peut faire parfois du bien de mettre des choses un peu « ok, ça c'est bon, ça c'est réglé » ou d'avoir un peu de certitude. On ne peut pas avoir de certitude, je pense, comme ethnographe, c'est pas possible, ni sur soi, ni sur le monde, ni sur son métier. Et donc, effectivement, ça peut, par moments, être épuisant, oui, voire violent dans le sens où, comme je le disais, il y a parfois des choses qui nous arrivent et qu'on n'avait pas anticipées, imaginées, et il faut pouvoir faire avec, y répondre, assumer. C'est quelque chose, pour moi, qui est vraiment important, c'est-à-dire, à partir du moment où on a prétention à faire de la recherche et à publier, et donc à rendre public toute une série de traces et d'analyses, L'idée, c'est de pouvoir assumer ce qui se passe autour de ces traces, ces analyses rendues publiques, et donc de se retrouver parfois vraiment aux prises avec des questions ou des situations difficiles aussi. Ça fait partie, il me semble, du paquet quoi, avec lequel on doit travailler. Ouais.
Je vais continuer sur cette idée de public, parce que c'est quelque chose dont tu parles aussi beaucoup dans ton article, et qui, par ailleurs, tu écris beaucoup, tu publies beaucoup de choses et des récits qui ont plein de statuts qui sont à la limite de l'autobiographie, des nouvelles, des choses que j'appellerais des ethno-nouvelles, enfin des nouvelles d'inspiration ethnographique,
oui.
Qui ont des vertus heuristiques aussi, quand même, enfin de compréhension, de complexité à l'œuvre dans le monde. Les gens sur qui tu écris ne te lisent pas tous, mais te lisent.
Oui.
Dis-moi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Qu'est-ce qu'on fait des retours ?
Qu'est-ce que toi tu en fais, oui.
Qu'est-ce qu'on fait des retours ? Alors évidemment, ça dépend sur les retours sur quel type de texte. Parce que si c'est un texte vraiment ethnographique, les personnes peuvent se retrouver directement, même si elles ont été protégées par toute une série de procédés d'anonymisation, peuvent se retrouver directement dans ce que l'on écrit. On peut être dans des interpellations plus directes, qui peuvent être très belles. J'ai eu beaucoup de choses très belles aussi, il faut pouvoir, ou qui peuvent être très dures parfois, parce que le texte échappe, parce qu'il ne va pas forcément là où on aurait voulu. Et en tout cas, ce que j'essaye moi d'en faire toujours, c'est d'entendre ce qui se passe, d'entendre ce que ça provoque, de beau comme de dur parfois. Mais de nouveau, pour en revenir sur cette réflexivité permanente, comment ça va transformer la suite de ta pratique de recherche, de ta pratique d'écriture, de ta réflexion aussi sur les questions de transmission, comment tu transmets des connaissances, sous quelle forme. Et donc, quand on est dans une écriture plus littéraire ou métaphorique, c'est différent parce que les personnes vont parfois s'y retrouver, mais autrement, c'est-à-dire que la confrontation est moins directe, ils ne vont pas retrouver ce qu'ils ou elles ont dit ou fait, ils vont retrouver des petits bouts de leur histoire. Et c'est aussi un intéressant. Alors, il y a toujours un peu le même type de questions qui se posent. Le côté est souvent très beau et très fort. Ça permet à plus de gens de comprendre peut-être un petit quelque chose de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu. Ça permet d'aller à la rencontre autrement. Et donc, il y a aussi beaucoup ça qui se passe. Et puis, même si en littérature, ça se pose autrement, il y a aussi la question de la légitimité qui revient quand même. À partir d'où écris-tu, comment, pourquoi, mais qui est une question qui traverse la littérature depuis très longtemps. Ça veut dire quoi, se glisser dans un personnage, en fait, comme auteur, comme autrice, et donc écrire en jeu alors que tu écris l'histoire d'un homme, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est des questions qui sont là très fort dans la littérature, qui ont déjà, dès lors, été beaucoup réfléchies et discutées dans la littérature. C'est intéressant aussi d'aller voir comment, à la fois, ça peut... De nouveau, il y a des enjeux éthiques qui sont là posés, mais aussi dans ce que ça permet de saisir quelque chose en profondeur, en fait, de l'altérité, de vision du monde, d'aller à la rencontre, il y a quelque chose là. Et donc, il y a, voilà, d'un côté comme de l'autre. Ce que j'en fais, c'est, ouais, je dirais, c'est surtout ça. Entendre, même quand on n'a pas envie d'entendre, parce que parfois on n'a pas envie. Prendre les belles choses, parce qu'il y en a aussi des moins belles qui arrivent. Et les moins belles, en tout cas de mon expérience à moi, c'est rarement directement les gens avec qui on a travaillé ou de qui on a été les plus proches, même si ça peut arriver parfois. Parce que même à l'IPPJ, par exemple, j'ai eu en partie des retours difficiles avec les équipes à la sortie de l'ouvrage, mais aussi parce qu'il y a un tel turnover dans les équipes qu'au moment où l'ouvrage sort, il n'y a presque plus personne des gens avec qui j'ai travaillé qui sont dans l'institution, et donc ils reçoivent un peu un regard sur leur pratique qui tombe un peu comme ça, dont on ne sait pas forcément quoi faire parce que ce n'est plus les mêmes aussi. Donc, voilà. Par contre, moi, j'ai eu pas mal de mes... Ouais, de de choses dures où je reçois parfois des... Enfin, parfois, oui, quand même, assez régulièrement, en fait, des courriers d'insultes ou de l'agression sur les réseaux sociaux. À un moment donné, je recevais souvent des courriers écrits dans ma boîte ici à Louvain, ce qui m'inquiétait beaucoup parce que ça me semblait quand même un peu plus... Je sais pas.
Oui.
Voilà, je me dis, tiens, qui voilà, qui... Enfin, voilà. J'ai eu aussi, à un moment donné, quelque chose qui était assez dur. Il y avait pas mal d'articles qui circulaient sur des réseaux d'extrême droite où ils reprenaient certains de mes propos en me traitant de bobo gauchiste, machin, tout ça. Bon, voilà, on est habitué, c'est pas bien grave. Mais il y avait ma photo qui avait été reprise d'ailleurs. Voilà, et en dessous de la photo, il était mis Jacinthe Mazzocchetti, la bobo gauchiste typique de je ne sais pas tout quoi. Enfin, voilà. Mais le fait qu'il y ait ma photo, tout ça, ben, des trucs comme ça, parce que c'est ça aussi, les retours, c'est ça aussi. Hein. Ça fait aussi partie de quand on met des traces en circulation. Il y a des choses belles et puis il y a des choses plus dures aussi. Et de nouveau, quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour le coup, j'aurais pu porter plainte, mais je crois que ça m'aurait beaucoup fatiguée pour pas grand-chose. Ce que je fais avec ce cas-là, par exemple, je l'analyse avec mes étudiants et mes étudiantes, ce qui est déjà intéressant en soi. Quand je dis, voilà, autour des questions éthiques, je pars sur l'idée du fait qu'on a un métier dans lequel on expose les autres. Et donc, il y a quelque chose là, vraiment. Mais on s'expose aussi. Et qu'il faut aussi réfléchir, qu'est-ce que ça implique de s'exposer soi, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pas dans le sens du côté de l'ego, même si on pourrait le travailler par là aussi, mais bon, moi, je me sens moins concernée par ça. Mais on s'expose aussi, bah oui, sur la scène publique, et donc ça a aussi des incidences. Ça a aussi des incidences, oui. Parfois, on reçoit des choses très belles aussi, hein, des courriers très beaux et tout ça, heureusement. Mais il y a aussi cet autre versant-là qui existe, hein, oui.
On s'expose plusieurs fois, c'est encore ces différents niveaux. Ce que je trouve fascinant avec la pratique de l'ethnographie comme un tout qui irait de la recherche du terrain à la mise en théorie et à l'écriture, c'est que ces choses se jouent de la même manière et de manière différente, à la fois sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est s'exposer, c'est directement exposer son corps au terrain, c'est prendre le risque de la présence sur le terrain. D'ailleurs, moi, quand j'ai l'opportunité de parler de mes recherches à des étudiants, je fais toujours un micro-moment où je dis qu'on s'engage aussi, qu'on s'engage doublement à prendre soin de soi et à prendre soin du terrain, et que ces deux choses sont aussi importantes, c'est ne pas nuire et ne pas se nuire, et que ces deux choses-là doivent rentrer en ligne de compte, que sinon c'est trop facile de se nuire, d'avoir des conduites toujours plus dangereuses, sous prétexte de la recherche. Mais on se réexpose dans l'écriture, d'une autre manière et d'une nouvelle manière, parce qu'on expose aussi ce qu'on a vu, comment on le lit, comment on l'analyse, ce qu'on en fait. À la fois pour les gens du terrain et pour les gens qui nous lisent et pour les autres scientifiques à qui on donne nos travaux pour faire grandir un projet qui serait plus grand que nous.
Oui, il y a un continuum là qui, de nouveau, avec, c'est aussi très intéressant parce que ça te met en chemin permanent et puis en mouvement permanent. Tu apprends et c'est passionnant. Mais parfois, ça te met aussi effectivement en posture de fragilité, de... Et il faut pouvoir prendre soin de ça. Je suis tout à fait d'accord. Et des différents moments qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que quand on est sur le terrain, on s'expose de manière directe à un groupe plus restreint de personnes. Par le chemin de l'écriture, on s'expose de manière plus indirecte, mais à un nombre beaucoup plus conséquent de personnes. Surtout, et ça dépend aussi des sujets sur lesquels on travaille, mais surtout s'il y a une certaine presse qui s'empare ou bien que l'on sollicite, hein, ça peut aller dans les deux sens, de ce qui est écrit qui fait que, à partir du moment où c'est là, forcément, ça va amener toute une série de réactions qui peuvent aller dans des directions assez différentes.
Hein. On n'a plus beaucoup de temps, donc j'ai deux questions encore à te poser. J'ai une question plus particulièrement sur ta pratique de l'écriture et sur ta pratique de la poésie. En lien, entre autres, avec ta nouvelle ligne qui s'appelle Ethnopoétique. Et une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Okay. Et donc, je vais revenir sur ta pratique de l'écriture, parce que ton écriture est très belle, mais je sais que tu travailles beaucoup pour écrire et pour bien écrire. Et tu m'as donné, pour préparer cet épisode, un petit recueil qui s'appelle L'autre et moi.
Ton ombre et moi.
Ton ombre et moi, que j'ai trouvé... je ne sais même pas trouver les mots pour dire ce que ça m'a fait, mais je l'ai commencé en me disant je vais le feuilleter vite fait. Et puis finalement, je suis restée assise sur le sol de mon bureau et je l'ai lu en entier, vraiment prise dedans. Et ensuite, j'ai feuilleté davantage que lu en entier Ethnopoétique aussi, parce que je crois que je ne suis pas tout à fait prête à avoir une vision réflexive sur le confinement. Que mon cerveau est encore un peu en résistance sur ces questions-là. Voilà, beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé très très fort dans cette écriture poétique, qui est une écriture de toi, à propos de toi, c'est qu'elle était aussi totalement au-delà de toi, qu'elle venait me chercher, moi, dans mes expériences, et qu'elle venait parler de moi et de toutes les femmes, et de toi et de toutes les femmes, et qu'il se passait quelque chose de gigantesque, juste dans ce jeu que tu nous donnais à voir. Et j'aurais voulu parler de poésie, mais je ne sais pas comment. Mais du coup, je te le lance comme ça.
C'est pas mal. Ok. D'abord, je vais dire un petit mot, alors, parce que c'est important. L'ouvrage s'appelle « Ton ombre et moi » et il est paru chez Courgette Éditions, qui est une nouvelle maison d'édition ici depuis un peu plus d'un an en Belgique, qui s'insère dans un créneau qui n'existait pas encore tellement en Belgique, qui existe en Suisse pas mal, au Canada. L'idée, c'est de publier de la littérature féministe. Donc, je fais un petit, voilà, un petit jingle pub pour Cindy, mon éditrice, parce qu'il se passe là quelque chose aussi d'intéressant. Et ce n'est pas pour rien aussi... que cet ouvrage il est paru là, parce que effectivement l'idée c'est d'être dans un autre langage qui est un langage à la fois de l'intime mais aussi avec une écriture travaillée qui est du côté de la poésie. J'ai eu le retour notamment d'une bibliothécaire avec qui on avait collaboré à Excel autour de la présentation de l'ouvrage qui disait en fait c'est comme un long slam. À la fois, c'est un petit bouquin, mais ça, c'est un peu comme un long slam, dans le sens où ce n'est pas de la poésie, tu vois, construite, etc. Avec un peu aussi l'idée de la claque, qui est derrière l'idée du slam, l'oralité qu'on retrouve quand même dans l'écriture enfin, j'ai travaillé les sonorités, le rythme. C'est volontairement, à la fois, c'est pas non plus 3 minutes comme un slam, mais c'est un petit bouquin. Avec l'idée d'être plutôt dans le sous-entendu, même si parfois le langage est très direct et très cru, dans la métaphore, de ne pas tout dire parce que ce n'est pas nécessaire, de laisser de la place à l'autre, tout en étant dans l'intime le plus viscéral, parce que je pense... que c'est parfois en étant dans l'intime le plus viscéral qu'on est le plus proche de l'autre et des autres et qu'il est possible aux autres de trouver leur place, justement, pas toujours par un vécu similaire, ça peut être en miroir, ça peut être... voilà, le jeu, c'est à la fois le jeu du personnage, mais c'est aussi le jeu de je soi, et donc ça peut aussi être je toi. Ça peut être ton jeu, comme le mien, comme celui... Donc tout ça était... voilà, et c'est une écriture à l'intersection. Ce que j'essaye de faire de... Non, pas que j'essaye de faire de plus en plus, ce que j'assume de plus en plus, en fait. Parce que je le faisais depuis longtemps, mais d'une part, je ne trouvais pas forcément d'éditeur, éditrice qui trouvait intéressant cette pensée de l'intersection, parce que le monde de l'édition est très... rangés en catégories, etc., etc., etc. Et puis, moi aussi, il fallait peut-être, et je ne suis pas encore au bout de ce chemin-là, mais à un moment donné, dire « Ok, ben voilà, moi c'est ça que je fais, je vois du sens à faire ça. » Et donc, j'ai envie, à un moment donné, de partager à partir d'une écriture qui est entre le récit, entre la poésie, entre aussi l'ethnographie, parfois, qui est vraiment à l'intersection des formes pour essayer d'être au plus près, en fait, d'une réalité ou d'une question ou d'un combat, puisque là, ici, il y a la question des violences sexuelles qui est là, hein, qui est l'objet de l'ouvrage et qui est aussi une question qui est au-delà de la réflexion, de l'écriture, qui est en termes d'engagement, de lutte, quoi, qui est vraiment fondamentale pour moi. Comment modestement on peut aussi participer à quelque chose au-delà, évidemment, de manifester, de s'engager sur des cartes blanches, etc. Bon, il se fait que le chemin de l'écriture est un chemin important, intéressant pour moi, et que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire là. Je sais que ça peut être dur à recevoir, parce que je m'en doutais un peu, et puis on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui transcende par le travail d'écriture, en tout cas, j'espère. Oui.
Tout à fait. Non, mais vraiment. Et du coup, je repense au fait qu'à un moment, j'ai lu un peu ta thèse et que tu avais déjà entamé ce travail-là.
Il y a
chaque
déjà
chapitre de ta thèse commence par un poème.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, des choses aussi que, voilà. Puis, je collabore depuis longtemps avec des artistes, etc. Et il fallait progressivement que ça trouve sa place. Donc, j'ai longtemps été vraiment très... moi-même, alors que je lutte de tout ce que je peux contre l'idée de la catégorie, machin, même si, bon, le monde est... Mais donc, j'étais moi-même très cloisonnée, en fait. Il y a d'un côté l'UNIF, et d'un autre côté tous des engagements plus artistiques, etc. Et de plus en plus, j'assume quelque chose à l'intersection. Parce que, et je réfléchis beaucoup là-dessus aussi, et j'écris là-dessus aussi, sur les modalités de transmission des connaissances, qui sont vraiment, pour moi, centrales. Alors, je respecte beaucoup l'idée de produire de la connaissance simplement pour faire avancer les débats, c'est fondamental. Et par ailleurs, si on n'est pas sérieux, rigoureux, dans cette production de connaissances, le reste n'a pas de sens. Tu vas transmettre quoi, sur quelle base, avec de nouveau quelle légitimité, mais c'est la question de la légitimité posée autrement, la légitimité par rapport à la crédibilité de la connaissance d'une discipline, d'un métier, d'une méthode, etc. Donc, mais, et de nouveau, ça n'engage que moi, donc je ne sais pas du tout dire il faut faire, tout le monde doit faire. Ou, pour moi, ça ne suffit pas. Mais c'est vraiment pour moi. Pour moi, la question du sens, elle vient après. C'est-à-dire quand... même si elle est là dès le début, dans la rencontre, dans le travail d'écriture, dans la lecture, dans la production de connaissances, évidemment. Hein. Mais si je ne vais pas le pas plus loin, qui est de « qu'est-ce que je fais de ça ?» Moi, il me manque quelque chose. Et c'est souvent le petit bout, là, qui vient rééclairer tout le reste et donner du sens à tout ce qui précède. Mais ça, évidemment, c'est chacun son chemin, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment... plein d'autres manières de faire et de trouver du sens à ce que l'on fait. Voilà, moi je trouve que c'est important que on a la chance en fait de rencontrer énormément de gens, d'avoir du temps pour lire, d'avoir du temps pour écrire. Et ça me semble important de pouvoir en faire bénéficier aussi d'autres cercles que uniquement des cercles plus privatifs, restreints, quoi.
C'est une question qui a beaucoup de sens. Tu disais que tu travaillais sur les complotismes, mais la question de la transmission des savoirs en ce moment, qui prend la parole à propos de quoi, qui produit la connaissance, qui transmet la connaissance, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui cristallise plein de mes angoisses vis-à-vis du monde contemporain à travers des personnages, notamment comme Éric Zemmour, qu'on qualifie d'intellectuel, et dont on vient dire, mais sa très grande connaissance suffit en soi à informer ses discours, et du coup, à partir de ce moment-là, il y a déjà cette espèce d'admiration.
Oui, dans certains cercles, évidemment. Dans certains cercles. Après, si tu prends la peine... Donc moi, je n'ai pas analysé en détail les ouvrages d'Éric Zemmour, mais par contre, je l'ai fait, parce que je travaille sur les questions d'exil et de migration, beaucoup, je l'ai fait pour les ouvrages de Théo Franken. Et si tu prends... c'est un peu... c'était pas le plus marrant du boulot, mais c'était intéressant néanmoins, parce que ça permet de as un regard vraiment critique et analytique en fonction des critères de rigueur évidemment des sciences sociales, tu repères évidemment dans ces ouvrages ce qui tient, ce qui ne tient pas et quels sont les jeux, les rhétoriques aussi. Pour te donner un exemple concret, il cite beaucoup de chiffres Et donc, il a trois techniques de citation de chiffres. Des fois, il cite des chiffres qui sont tout à fait justement référencés. Des fois, il cite des chiffres qui sont référencés, mais en fait, l'interprétation qu'il en fait ne correspond pas à la source de départ. Et des fois, il cite des chiffres non référencés. Et tout ça est amalgamé dans un même ouvrage, ce qui fait que c'est très difficile parfois de savoir quand là, ça tient, si tu veux, en tout cas, la source tient, après, ce qu'il en fait, c'est encore autre chose, ou quand ça ne tient pas. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on retrouve dans... C'est une technique, en fait, qui vient brouiller aussi. Ça a l'air très érudit, en fait. Ça a l'air très sérieux, parce qu'il cite beaucoup de chiffres, d'auteurs, d'autrices, etc. Mais comment et donc, voilà, ce genre... Et ça, ça nous renvoie à la dimension que j'énonçais il y a quelques minutes, qui est celle... évidemment, la chose fondamentale, c'est la rigueur. Quels sont les critères de rigueur dans nos disciplines respectives, dans nos démarches respectives. Si tu ne fais pas ça, alors pour moi tu es dans l'opinion, et même si c'est une opinion plus ou moins informée, ce n'est pas la même chose que d'être évidemment dans un discours qui est ancré empiriquement, théoriquement, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient parfois difficile de distinguer l'un et l'autre, et ça demande, et on n'est pas tous et toutes, soit on n'a pas le temps, ou l'envie, ou la possibilité de faire cette analyse critique des différents types, évidemment, de discours. Puis ça renvoie aussi à la scène médiatique, à qui donne-t-on la parole, comment, pourquoi, sur quelle base. Ça, c'est un enjeu aussi, évidemment, du monde à venir. Hein.
Complètement. Bah, en parlant de monde à venir, et c'est ma question finale, quel est le rôle pour toi de l'anthropologie à la fois dans le monde contemporain et peut-être pour l'avenir du monde, si elle a un rôle à jouer? Et comment alors est-ce qu'elle peut le jouer?
Alors ça, c'est vraiment une question gigantesque. Alors certainement un rôle, oui, à plusieurs niveaux. Je rassemble un petit peu mes idées, mais déjà, on est dans un monde aujourd'hui qui échappe par sa complexité à tout le monde, en fait. Tout le monde. Personne ne peut avoir prétention aujourd'hui à saisir vraiment l'ensemble de ce qui est en jeu, etc. Et on est une discipline de la complexité, de la profondeur, qui ne se suffit pas des cases, justement, qui va au-delà des discours simplistes, qui peuvent aussi être des discours analytiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu raisonnes en termes de structure, etc., parfois... Tu tombes dans un discours qui tend à simplifier la réalité. Nous, on aime bien tout ce qui déborde, et donc on n'est jamais dans un discours de la simplification. Je pense qu'on a besoin vraiment aujourd'hui d'être dans un discours, d'être dans une analyse de la complexité du monde, et que les anthropologues ont beaucoup à apporter, à la fois par leurs méthodes, qui sont en permanence à l'intersection des singularités et des contextes. Et donc, c'est quand même pas rien de prendre extrêmement au sérieux les différents contextes sociaux, politiques, historiques, économiques, vraiment, et en même temps, de prendre extrêmement au sérieux les singularités, les discours, les pratiques, les représentations vraiment singulières dans les différents groupes sociaux, de différentes personnes, etc., et de voir ce qui se passe à l'intersection du local et du global, pour parler de manière... Plus avec des termes plus généraux, mais c'est quand même pas rien, et c'est assez rare, en fait, de vraiment prendre les deux avec autant de sérieux. Et donc de voir à la fois l'incidence des contextes, évidemment, sur les personnes, les groupes, mais aussi l'incidence des personnes et des groupes sur les contextes, et d'essayer de saisir ce qui se passe là. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment d'assez spécifique. On est dans une discipline aussi, en particulier l'anthropologie politique, qui est celle dans laquelle je m'inscris, qui s'intéresse depuis très longtemps. C'est peut-être une des branches de l'anthropologie qui... Alors, évidemment, le contexte colonial est d'emblée structurellement violent, et notre discipline, comme l'ensemble des autres disciplines par ailleurs, était forcément aux prises avec ce contexte. Mais l'anthropologie politique, dès le moment colonial, développe un regard extrêmement critique, justement, sur la violence coloniale, les travaux de Balandier, mais pas seulement, développe un regard extrêmement critique sur les rapports de domination, les rapports de pouvoir. Alors évidemment, qui dans les années 50 était loin d'être parfait et ne l'est toujours pas aujourd'hui et continue d'être décalé en permanence par les critiques décoloniales, féministes, etc. Et heureusement, et c'est bien, et ça doit se poursuivre. Mais quand même, on a un ancrage là, et une solidité qui nous dit depuis très longtemps, il faut regarder les choses avec un regard systémique à l'intersection des rapports de pouvoir, à l'intersection des rapports de domination, et qui doit aussi avoir une attention aux luttes, aux résistances, qu'elles soient macro ou micro, aux ruses, aux stratégies, aux tactiques, à l'infrapolitique, etc. Et donc, je pense que là aussi, on a quelque chose vraiment de fondamental à jouer, quoi. Vraiment. Et peut-être là, pour ne pas être trop long, parce qu'on pourrait s'étendre, une de nos forces aussi, qui est tout à fait en opposition avec le monde contemporain dans lequel on évolue et dans lequel on voudrait faire évoluer la recherche aussi, c'est la longue durée. Et ça aussi, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que si tu n'es pas dans la longue durée, tu ne peux être que dans la surface de la compréhension des choses. Et le fait que nous, on travaille longtemps, avec les gens, déjà on travaille avec les gens, déjà. Et puis on travaille longtemps avec les gens, on multiplie les points de vue, on les met en confrontation, on prend du temps, on prend des années parfois, on écrit encore des livres, parce que de plus en plus on nous amène à écrire vite des articles, etc. Dans un article, tu peux pas être dans la multiplicité des points de vue. On réfléchit beaucoup sur nos postures, nos méthodes, etc. Ça nous amène aussi, je pense, à avoir une approche et un regard dont on a fondamentalement besoin aujourd'hui pour arrêter d'être en permanence dans une pensée de l'urgence, du court-termisme, mais aussi de la performance, de la concurrence, etc. etc. Et on a là aussi quelque chose à jouer, je pense, qui va au-delà de ce que nous sommes, c'est-à-dire d'essayer, même si c'est tout à fait à contre-courant du chemin dans lequel nous sommes pris, que cette approche par la lenteur, qui est donc une lenteur qui permet la profondeur et la complexité, déborde vers le reste des sciences sociales, le reste du monde académique et le reste du monde de manière plus générale.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous souhaitez prolonger la discussion, des liens bibliographiques vous sont proposés dans la description. On se retrouve bientôt pour parler d'anthropologie.